un ouvrage, un éclairage.
Vous êtes bien sur Radio Orient, un ouvrage, un éclairage, ce sapin plus heureux qu'une étoile, signé Charlotte Saliou aux éditions Unicité. Bonjour Charlotte Saliou.
Bonjour.
Vous êtes aussi l'autrice du roman Le Refuge des étoiles chez Black Elephant et du recueil de poèmes paru en 2003 et Vivre ma folle vagabonde. Ce sapin, plus heureux qu'une étoile, se découpe en trois parties hein, avec vos poèmes, des chansons, des hommages aussi à Jacques Prévert, c'est très important. Ouvrage préfacé par Pierre Vavasseur, écrivain, journaliste littéraire, poète, chanteur. Et il souligne que vous vous adressez à l'autre comme si vous étiez vous-même l'autre, Charlotte Saliou. Et cela peut caractériser globalement cet ouvrage.
Oui, d'autant plus que cet ouvrage donc parle et évoque des souvenirs d'enfant, donc l'enfant que j'ai été. Et cet enfant-là, elle est assise sur un petit banc, et puis je lui parle, hein, et je la fais parler avec l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire quand même, on peut dire, bien 30 ans de plus. Donc l'idée, c'est d'utiliser en fait les mots, les possibilités de la langue et ce que je trouve de beau et de magique dans ces possibilités-là, dans les mots, la magie des mots, pour essayer de comprendre cet enfant-là et ses souvenirs qui persistent aujourd'hui. Donc effectivement, c'est comme un miroir et dans le miroir, je vois une petite fille.
Qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce miroir, ce dont vous ne vous rendiez pas compte lorsque vous étiez une petite fille ?
Eh bien, je pense que quand on est petit, on est joyeux, bon, évidemment, ou on est triste, et puis il y a des myriades d'émotions, il y a toutes sortes de nuances possibles. Mais j'avais peut-être plus de difficultés à l'époque de mettre en mots, forcément, la langue n'était pas la même, j'apprenais, je grandissais, comme tous les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec les possibilités de l'adulte, son recul, on voit tout avec beaucoup plus de beauté. En fait, même la souffrance est joyeuse et gaie. Il y a un poème notamment qui parle d'un épisode assez malheureux de l'enfance. Enfin, après, ce sont des souvenirs malheureux, je m'entends. Hein, des souvenirs que tous les enfants ont vécu, des souvenirs qui sont disciples largement. Il y a bien pire. Mais en tout cas, des gifles adressées par une institutrice. Et l'institutrice me giflait à chaque faute d'orthographe, on faisait des autodictées. J'étais pas forcément douée en orthographe et je me souvenais pas des mots et de comment on les écrit. Et elle mettait des gifles à chaque fois. Et j'en avais un souvenir traumatisant. Et en l'écrivant, j'ai réussi presque à en rire ou à y voir quelque chose de bon, bah, de passé, de ce qui construit l'individu, ce qui est constitutif de ce que l'on est, ce qui se dépasse en fait, qui se dépasse largement, heureusement.
Une forme de mini-thérapie.
Oui,
c'est un peu exagéré.
Un peu exagéré, parce que en fait, à partir du moment où on écrit, le problème, il n'existe déjà plus, je pense. Mais on peut mettre des mots, enfin, en tout cas, me concernant, et puis on peut mettre des mots et surtout rendre la chose amusante, décalée, humoristique, joyeuse, autant qu'on peut. Mais on peut regarder ça avec, bon, bah, ça va. Voilà. Même oui. Si je ne cautionne absolument pas ce qu'a fait cette femme, et de mettre des gifles aux petits-enfants, hein, c'est pas le sujet.
Ça, c'est une évidence. Ouais. Pierre Vavasseur, qui préface hein, votre ouvrage, qualifie la poésie de moteur à implosion.
Oui.
Et c'est aussi ce que l'on ressent en lisant ce livre.
Alors, tant mieux, parce que le moteur à implosion, ça veut dire que ça avance, et ça veut dire que ça prend la route. Qu'est-ce qu'on fait ? On voyage, en fait. On va voir des paysages, des montagnes, la mer, alors les montagnes et la mer intérieure. Mais on voit toutes sortes de choses, de décors, et ça passe devant soi. Et le moteur à implosion aussi, c'est physique. C'est physique, et puis il faut recharger, il faut mettre l'essence, hein. faut que ça bouge.
Mettre l'essence, on le ressent dans votre livre. Ce sapin plus heureux qu'une étoile, est-ce aussi une métaphore de l'infinie féerie qui peut animer notre vie sur Terre ?
Oui. Oui, et puis c'est ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, Max Saliou, qui est mon neveu et qui a fait le dessin en couverture, il a une très belle lecture du titre, puisque je lui ai demandé par rapport au titre de faire un dessin. Il dit qu'en fait, c'est pour lui ce qui résiste, c'est la trace résistante de la vie sur Terre. Ce sapin plus heureux qu'une étoile, c'est-à-dire, et je suis évidemment je suis d'accord, je trouve ça très beau, ça, c'est même flatteur qu'il voit ça à son âge. C'est-à-dire qu'en fait, le gris n'emporte pas, ni la violence, ni même la trop grande magie des choses, en fait. Un sapin plus haut qu'une étoile, c'est aussi un arbre, ça existe, il sourit, l'étoile, elle est lointaine, on ne va pas viser l'étoile, on vise le sapin. Et donc, il y a cette image-là qui est terrienne, qui est le bonheur sur Terre, en fait.
L'étoile, elle était là déjà dans votre
Oui.
premier roman, Le Refuge des étoiles.
Oui, tout à fait. Elle était là. Et à cette époque, c'était comment, effectivement, rassembler les étoiles et en faire une constellation. Et la constellation est composée d'artistes, puisque bon, le roman parlait des artistes d'un hôtel qui s'appelle la Louisiane.
Vous êtes bien entendu très attaché à la liberté, à toutes les libertés. Diriez-vous que la poésie aujourd'hui reste l'un des derniers espaces de véritable liberté?
Oui, d'autant plus que je pense que un monde, bon, enfin, les concepts qui sont très 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 forts, qui nous assomment un peu ou nous perdent et nous noient aussi, peuvent être largement réappropriés et surtout les mots s'incarner en fait, avec une charge émotionnelle, des sentiments personnels. On peut se réapproprier toutes ces publicités, si on appelle ça, ou tous ces langages, ces abstractions folles. Qui sont très présentes avec qui noient, oui, c'est ça. Et puis la liberté, c'est peut-être sortir aussi du sonnet en fait, pour ce qui est de l'exercice poétique à proprement parler, puisque du sonnet ou des formes figées, des formes de la métrie, parce que ce qui m'intéresse en fait, c'est le pas de côté, quitte à faire une maladresse pour ensuite la contrôler et pour aller chercher le sens. Le sens, c'est la mélodie.
Ces hommages à Jacques Prévert dans votre ouvrage, hein, ce sapin plus heureux qu'une étoile, cela peut être considéré comme un pas de côté. Jacques Prévert, qui est parfois critiqué par certains intellectuels,
Oui.
vous justement, vous l'encensez et vous démontrez à quel point il reste actuel et important aujourd'hui.
Oui, parce que la poésie, c'est quelque part pour moi une langue un peu primitive en fait aussi, une langue de l'enfant qui sommeille en nous, et c'est comme ça la poésie peut rassembler. Et être entendu aussi par beaucoup de gens, si ça parle à quelqu'un qui a déjà existé en nous, en fait, qui n'est pas sur des échasses, qui n'est pas bourré d'évocations, de références, bien que enfin, ça peut être très intéressant d'en faire aussi. D'ailleurs, c'est intéressant, ça, comme exercice de jongler avec les deux registres, l'enfant qui ferait l'écho à l'adulte avec des références, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Et j'aime bien le grand dadais, le grand enfant, le grand maladroit aussi.
Le cancre aussi.
Oui, et le cancre. J'aime le cancre, surtout à l'écrit, parce que quand on les rencontre à l'école, ça peut être plus difficile si on en est la cible, la cible du cancre, quoique ça peut être formateur, enfin ça dépend, là aussi, tout ça c'est subjectif.
C'est presque un premier poème sur le harcèlement scolaire.
Vraiment, mais en fait, ce qui est beau, c'est
Ouais.
qu'après, comme ça, des années, des décennies après, j'y vois des âmes un peu plus qu'avant. Et en fait, c'est vraiment ça, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que même si en écrivant, c'était déjà du moins guéri, s'il y avait chose à guérir, eh bien, j'ai l'impression d'avoir réussi à mettre des jolis mots sur des tristes choses.
Et on l'a dit, il y a un côté décalé avec ces hommages à Jacques Prévert. Jacques Prévert qui, des dizaines d'années après sa mort, continue aujourd'hui d'enchanter des générations.
Oui.
Il y a très peu de poètes aujourd'hui dans
C'est
ce
vrai.
cas.
Pour qui enchante, alors c'est vrai qui enchante, il y en a peu. Qui nous plonge dans l'énigme, mais il y en a un, c'est Charles Baudelaire, je pense. Et d'ailleurs, je le cite au travers d'une phrase dans Mon cœur mis à nu. Et la phrase exacte, c'est: Il y a dans la jeune fille toute l'abjection du voyou et du collégien. Et voilà. Et j'aime bien cette définition de la jeune fille et peut-être même de la sauvage, de la sotte. Parce qu'en fait, je pense que oui, voilà, dans cette candeur ou cette fragilité, il y a beaucoup d'instinct et on sait beaucoup de choses, forcément. Et puis la deuxième phrase, c'est une phrase de Bob Dylan qui fait partie d'une chanson qui s'appelle It's All Over Now, Baby Blue. Et l'idée, c'est qu'il y a un orphelin en fait qui attend. Et je pense que l'orphelin, c'est aussi une belle image pour décrire le poète.
Vous évoquiez Charles Baudelaire. Il y a une forme de mélancolie également dans votre ouvrage. Est-ce que cela fait partie de cette série d'émotions qui se dégagent de votre recueil.
Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de nostalgie, ça j'en suis sûre. Alors la mélancolie, oui, parce que forcément, si on touche à un souvenir passé, il est difficile de déterminer la couleur des émotions. Donc oui, la mélancolie, c'est sans doute assez approprié, mais j'y avais pas pensé.
Et lorsque l'on pense à notre enfance, elle survient parfois également, notamment lorsque l'on écrit sur notre enfance.
Alors, c'est étrange parce que d'ailleurs, à écouter des témoignages de différents, même des chansonniers, je ne sais plus lequel, qui disaient qu'il est fasciné par les gens qui sont exaltés par les souvenirs d'enfants et de l'enfance, parce que lui, ça le retient dans une profonde tristesse. Et l'impression d'avoir perdu quelque chose, le paradis, d'avoir perdu le plus beau chapitre de sa vie, comme si ce chapitre-là était terminé. Alors moi, pas du tout. Moi, j'ai l'impression, au contraire, que cet enfant est encore là en moi.
C'était pas une quête,
non,
aujourd'hui.
C'était pas une quête. Et puis, c'est un jeu aussi d'écrire. Et la poésie, c'est un jeu, je pense. Le fait d'écrire d'aller s'amuser avec les mots.
Et d'amuser l'autre,
oui.
Et de le faire vivre, et de le faire vibrer, c'est ce que vous faites, hein, avec une très grande liberté dans les thèmes abordés.
Oui, merci. Alors, les thèmes, oui, c'est vrai. Les thèmes s'arrêtent à l'école, en fait. Je crois que j'ai décidé de faire une année au CP, puis une année au CE1, au CE2, au CM1, au CM2, jusqu'au collège, je crois que j'ai fait ça, j'ai travaillé de cette façon-là en fait, et un souvenir du moins par année.
Est-ce que vous l'avez écrit, cet ouvrage, depuis l'hôtel dans lequel vous travaillez, l'hôtel mythique, la Louisiane, cet hôtel qui a bouleversé votre vie ?
En partie, mais pas seulement. En fait, l'hôtel n'est pas le lieu privilégié, là, pour le coup. Autant dans « Et vivre ma folle vagabonde », le premier recueil, j'ai beaucoup travaillé à la Louisiane. Et en plus, il y a un poème qui rend hommage à l'hôtel, puisque c'est en voyage, pour parler d'une voyageuse, et elle s'arrête à la Louisiane. Mais cette fois, j'ai travaillé un peu partout, un petit peu partout.
Et voilà, il y a des lieux emblématiques dans Paris, la Louisiane en fait partie. Dans votre roman Le Refuge des étoiles, vous ressuscitez les étoiles qui ont fréquenté cet hôtel, hein, Rimbaud, Verlaine, Sartre, Beauvoir, Julia Gréco, Albert Cosseri aussi. Cet hôtel, c'est une part très importante de votre vie. Vous êtes imprégné par son histoire, ses personnages. Est-ce une part de votre esprit aujourd'hui ? Est-ce que cela délivre certains mots et les poésies auxquelles vous avez donné naissance, même si vous nous dites que vous n'êtes pas inspiré de
oui,
cet hôtel lorsque vous avez écrit.
C'est vrai, mais il y a des lieux qui sont magiques et plus porteurs que d'autres, parce qu'on ressent, et c'est toute la, presque l'insolence du lieu, on ressent une charge en fait, on ressent que des choses se sont déroulées, que des dialogues ont eu lieu, que des histoires d'amour ont été vécues. Il y a une histoire et elle porte. Et puis, on a envie non pas de lui rendre hommage à ce lieu, mais enfin de le respecter aussi, de continuer, c'est motivant, de continuer à faire vivre les idées. Il y a des formes d'expression qui peuvent évoluer dans un hôtel comme la Louisiane. C'est le refuge de certaines formes d'expression plus libres. C'est plus libre qu'ailleurs. J'ai du mal à imaginer, effectivement, je ne sais pas si je pourrais écrire dans un endroit plus proche du laboratoire, en fait. Quoique, ça pourrait être intéressant, d'ailleurs. Mais enfin,
c'est une idée.
La prochaine fois.
C'est une idée qui naît. Merci pour ces émotions, Charlotte Saliou. Vous venez de publier ce Sapin plus heureux qu'une étoile, et c'est aux éditions Unicité. Un grand merci, Charlotte Saliou.
Merci beaucoup.
Et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était un ouvrage, un éclairage sur Radio Orient.